Bienvenue sur Fréquence Recherche, une émission qui donne la parole aux chercheurs et aux chercheuses pour penser les liens entre recherche et société. Financement, vérité, utilité, langage ou création, nous nous retrouverons 5 jeudis par an sur Radio Campus Paris. Pour ce deuxième épisode, nous ouvrons une heure de réflexion autour d'une notion aussi essentielle que complexe, la vérité scientifique. Pour un si vaste sujet que je méconnais, je dois bien vous avouer que je ne savais pas vraiment d'où partir. Alors j'ai cherché à me documenter un peu. Mais entre les articles titrant « anti-vax »,« anti-OGM »,« climato-sceptique », »,« les nouveaux dangers », et les revues de philo où j'y comprends pas grand-chose, j'ai décidé, en attendant que l'on m'explique, c'est-à-dire à la fin de cette introduction, qui je l'espère ne sera pas trop longue, de vous raconter une histoire. Il s'agit d'un film que j'ai vu récemment. Il est inspiré d'une histoire vraie, celle de la quête de la vérité d'Erin Brockovich. Je vous en dis plus. Californie, Hinckley, commune dans le désert de Mojave, années 90. Erin Brockovich entrevoit l'hypothèse d'une eau contaminée au chrome hexavalent par une industrie en discutant avec des riverains malades. Elle est certes animée par un sentiment de justice, mais elle a surtout une rage de révéler des faits volontairement occultés. L'empoisonnement intentionnel d'une région de Californie par l'industrie Pacific Gas and Electric. De façon méticuleuse et méthodique, elle fouille les registres des eaux, consulte un chimiste descendant les puits, explore les mares, consulte les riverains un à un, et elle parvient à démontrer l'empoisonnement contre un géant de l'industrie. Alors, je me suis demandé, est-ce que la recherche scientifique c'est pareil ? Existe-t-il une vérité indéniable, des faits physiques ou sociaux, et le métier de chercheur consiste à les découvrir ? Quelle différence alors entre Erin Brockovich et un archéologue qui découvre que la civilisation viking était déjà présente en Amérique du Nord en l'an 1000 ? Et un biologiste qui découvre que le microbiote intestinal participe au fonctionnement du cerveau et à la régulation des humeurs ? Un sociologue qui met en évidence un lien entre des politiques d'austérité et une précarité des professions de santé subordonnées, comme la physiothérapie. Est-ce la nature de la démarche scientifique ou des objets de recherche ? Est-ce seulement l'organisation sociale de la recherche qui nous les fait reconnaître en tant que chercheurs ? Par ailleurs, à Hinckley, la vérité sur l'origine des maladies était celle de l'industrie et de médecins corrompus. Avec Erin Brockovich, elle bascule. Et le spectateur n'a aucun doute. L'industrie est coupable. Et cela même avant le jugement judiciaire. Pourquoi ? Est-ce parce que nous avons suivi chaque étape d'une démarche méthodique ? Peut-être. Mais alors qu'est-ce qui la distingue, elle ou des chercheurs, de Suprameteor 3000, nouveau compte YouTube suivi par 300 000 personnes, qui prouve méticuleusement lui aussi, par une série de 10 vidéos de 3 heures, que les autres planètes n'existent pas ? Comment peut-on être sûr, nous qui n'y sommes jamais allés, à l'existence d'autres planètes ? La question se complique davantage, puisque les dites vérités scientifiques qui nous parviennent peuvent être fausses. L'affaire des eaux contaminées, le Mediator et des centaines d'autres scandales en témoignent. Dans la santé, l'industrie, l'environnement. Alors comment et qui croire ? De quoi peut-on douter sans basculer dans le complotisme ? Et malgré tout, pourquoi peut-on et doit-on faire confiance à la science ? Alors, pour ne pas tenter de répondre à la question suivante, les anti-vax, les anti-OGM et les climato-sceptiques sont-ils tous de fervents défenseurs d'Elon Musk ou mangent-ils bio ? Mais bien pour essayer de comprendre ensemble ce qu'est la vérité scientifique, son façonnement par la recherche et ses enjeux sociaux, j'ai l'immense plaisir de recevoir deux invités, Stéphanie Ruffy. Après un premier doctorat en astrophysique, vous effectuez un second doctorat aux États-Unis en philosophie des sciences. Vous êtes aujourd'hui professeure de philosophie à l'École normale supérieure de Paris. Vous étiez également directrice de l'OFIS, l'Institut français de l'intégrité scientifique. Stéphanie Ruffy, bonjour.
Bonjour.
Avec elle, nous recevons Paul Guy Escuré. Vous avez soutenu l'an dernier votre thèse intitulée « Les critiques de la déraison pure, sociologie des défenses citoyennes de la vaccination et de la science ». Vous êtes aujourd'hui post-doctorant à l'Institut Pasteur, au sein de l'unité Anthropologie et écologie de l'émergence des maladies. Paul Guy Escuré, bonjour.
Bonjour.
Je serai également accompagnée pour cet entretien et pour toute l'année de Pauline Beaumont.
Bonjour Naama, bonjour à tous.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite question pour vous deux qui, je pense, a une pertinence dans cette émission. Paul Guy Escurie, j'étais étonnée de voir que vous étiez à l'Institut Pasteur puisque vous venez des sciences sociales et que pour nous, pour Pauline et moi, comme pour beaucoup de monde, l'Institut Pasteur est un institut scientifique de sciences physiques et naturelles.
Alors, disons que j'ai un comme en fait comme beaucoup de sociologues des sciences j'ai un parcours je viens pas vraiment des sciences sociales, je viens de la biologie au départ et j'oblique vers les sciences sociales assez tardivement. La connexion avec l'Institut Pasteur, en fait, c'est un endroit où j'aurais pu travailler quand j'étais biologiste. Après, est-ce qu'il y a la logique aujourd'hui à ce que des sciences sociales se retrouvent à l'Institut Pasteur? Il y a une logique institutionnelle. Aujourd'hui, beaucoup de projets invitent à avoir de l'interdisciplinarité, à avoir des dimensions, à intégrer des dimensions réflexives. Donc, les sciences sociales trouvent tout à fait leur place là-dedans. Et puis, en plus, l'Institut Pasteur, c'est un réseau d'instituts qui sont présents un peu partout dans le monde et qui nécessitent, du coup, une partie du temps qui pose des questions sur les cultures auxquelles sont confrontés les professionnels de santé et les chercheurs qui essayent d'apporter des transformations dans le champ de la santé.
Et au niveau de votre démarche de recherche, est-ce que votre formation en biologie vous apporte quelque chose par rapport à d'autres doctorants ou post-doctorants qui n'ont uniquement fait des sciences sociales?
Alors, oui et non. Disons que ce que ça m'apporte le plus, peut-être, c'est l'expérience d'avoir été dans un très grand nombre de labos, finalement, d'avoir fait des stages à différents endroits et d'avoir pu un peu prendre la température de moi-même quand j'étais étudiant dans différents espaces. Donc ça, c'est probablement quand même une expérience enrichissante.
Stéphanie Ruffy, vous avez également cette double formation, si je ne m'abuse. Même question, donc qu'est-ce que ça vous a apporté au niveau de vos démarches de recherche et pourquoi s'être réorientée aussi?
Alors, c'est vrai que j'ai fait en parallèle de la philosophie et des sciences, et puis au bout d'un moment, j'ai définitivement succombé au charme de la philosophie. Et c'est vrai que d'avoir passé un certain nombre d'années dans un laboratoire donne une expérience de première main, justement, de l'organisation sociale de la science. On va y revenir, de la façon dont les institutions et les interactions entre chercheurs et chercheuses peuvent avoir des conséquences sur la fiabilité des résultats. Mais on va y revenir, j'en suis sûre.
On va y revenir, effectivement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Stéphanie Ruffy, qu'est-ce que pour vous, enfin, pour vous en tant que philosophe des sciences, bien évidemment, une vérité scientifique? Est-ce que c'est un fait, une réalité qui cherche à être démontrée par la recherche en sciences?
Alors, peut-être, je voudrais juste dire qu'il ne faut pas prendre la question de la vérité scientifique comme quelque chose de monolithique. Je pense qu'il est vraiment important de souligner que ce que dit la science, ça peut avoir des statuts très différents. Par exemple, quand l'astronomie vous dit que la planète Mars est plus éloignée du Soleil que la planète Vénus, vous ne prenez pas beaucoup de risques en considérant que ça correspond à la façon dont le monde est fait. Quand vous ouvrez un article ou un ouvrage qui vous explique, par exemple, comment s'est formée la Lune, alors là, vous avez des modèles, des simulations, et le rapport avec le réel va être moins direct. Et donc là, vous pouvez avoir un degré de certitude moins élevé, pour autant quand même très élevé, et on est plus de l'ordre d'un scénario, d'une modélisation d'un phénomène réel, dont on peut penser qu'il pourra être révisé à la lumière de nouvelles observations. Donc la question, à mon avis, elle est essentiellement une question de comparaison, c'est-à-dire est-ce que vous avez de bonnes raisons de faire davantage confiance à un scénario scientifique de formation de la Lune, ou davantage confiance à ce que, je ne sais pas, vous allez lire dans un roman ou en parlant avec votre voisine ou en regardant votre boule de cristal. Donc la question, c'est vraiment, elle est vraiment de nature comparative et on n'a pas besoin de certitude pour avoir de bonnes raisons de davantage placer sa confiance dans un énoncé scientifique.
Est-ce que ça implique qu'il n'y ait pas une vérité unique et qu'on doit faire confiance en plusieurs vérités, qu'il y ait des vérités plurielles et plusieurs normes de connaissance?
Alors par exemple, si on reprend comment s'est formée la Lune, il est raisonnable de dire qu'il y a ça s'est passé d'une certaine façon. La question, c'est quel accès nous on a. On n'était pas là pour regarder. Donc quel accès nous on a à ce qui s'est passé, par exemple, dans le passé là. Et donc oui, la Lune s'est formée d'une certaine façon. Dans quelle mesure on est capable d'avoir une seule hypothèse à ce sujet? À l'intérieur des sciences, il peut y avoir plusieurs hypothèses, mais ce qui fait toute la source de la confiance qu'on peut accorder à la science, c'est la capacité de ces récits d'être révisés, d'être mis sur la sellette, révisés à la lumière de nouvelles observations. Et donc, les choses ne sont pas figées, ou pas encore, en tout cas pour cet exemple, elles le sont pour d'autres exemples. Et la source de confiance, c'est encore une fois la capacité de réviser ces énoncés à la lumière de nouvelles observations. On n'a pas besoin d'être sûr.
Et en sociologie, est-ce que vous partagez cette...
Moi, en tant que sociologue des sciences, j'ai plus tendance à m'intéresser aux scientifiques, aux gens qui aux pratiques et éventuellement quand même aux discours et à ce que font ces discours. Une des approches que j'aurais sur la vérité scientifique, c'est de me poser la question déjà de qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on fait quand on dit la vérité scientifique, quand on range les choses dans une catégorie unique? Et en fait, pour moi, ça prolonge une question un petit peu plus historique, qui est comment est-ce qu'on en est arrivé à parler de la science comme un objet homogène? Et en fait, à quel moment dans l'histoire est-ce que ça se produit? Et on a des chercheurs, moi je pense par exemple à Carnino, mais il y en a d'autres, qui se sont intéressés à la façon dont dans le langage, la science est apparue comme la science au singulier, et éventuellement avec une majuscule sur le S. Et une des choses qui montre, c'est qu'en fait, c'est une arrivée assez tardive. C'est au cours du 19e, et c'est une opération qui a... Enfin, c'est un processus historique qui est épaulé par la construction d'un imaginaire où la science devient inséparable de la technologie, de la raison et du progrès. Mais c'est aussi un processus de requalification d'un ensemble de pratiques savantes qui ne s'identifiaient pas nécessairement auparavant les unes les autres comme appartenant exactement au même champ. Et je pense qu'on en reparlera, mais toute cette question de requalification et de où est-ce qu'on met les frontières et de comment est-ce qu'on discute, est-ce qu'on réussit à tomber d'accord sur le fait que nos pratiques sont équivalentes, que les vérités auxquelles on prétend sont équivalentes, c'est tout un des enjeux de relations au sein du monde de la recherche, mais aussi de relations entre la recherche et la société dans son ensemble.
Est-ce que vous réfléchissez à ces pratiques-là? Donc, les sociologues vous prennent en tant qu'objet d'étude, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui fait partie de votre démarche de recherche?
Alors, c'est vrai que quand on réfléchit, par exemple, aux sources de l'objectivité en sciences, aujourd'hui, en tout cas, en philosophie des sciences, on est très vite amené à attribuer la source de l'objectivité en science au mode de fonctionnement, aux structurations sociales, au mode de fonctionnement des communautés scientifiques, avec la fameuse évaluation par les pairs. Hein. Et ce qui est important, et un sociologue comme Pierre Bourdieu l'a très bien dit hein, dans son ouvrage « Sciences de la science et réflexivité », c'est que cette évaluation par les pairs, cette confrontation entre chercheurs, elle se fait toujours... puisqu'on est dans les sciences, en tout cas dans les sciences empiriques, elle se fait toujours à la lumière de ce que Bourdieu appelait le tribunal de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a les critiques. Au nom de quoi on va critiquer une proposition scientifique à l'intérieur d'une communauté scientifique, contrairement à d'autres champs professionnels, on va la critiquer au nom de ce que nous dit l'expérience, pour simplifier. Et donc là, on a vraiment un couplage entre les caractéristiques sociales du monde de la recherche et des prétentions à l'objectivité et à dire des choses fiables sur le monde. On n'a pas peut-être besoin de charger trop la barque avec vérité, parce qu'il y a plusieurs théories de la vérité, etc. Au moins, est-ce que ce que produit le discours scientifique est plus fiable que ce que produit d'autres discours sur le monde? Et si on arrive à montrer ça, c'est déjà bien.
Et c'est aussi parce qu'il est mouvant et qu'il y a au sein de la démarche même scientifique une remise en cause constante des énoncés précédents. Comment est-ce que ça s'opère? Vous avez parlé un peu de la revue par les pairs. Ouais. Comment est-ce qu'on conteste un résultat établi? C'est-à-dire publier un résultat établi?
Alors déjà, le fait qu'il soit publié, qu'un résultat a déjà été mis sur la sellette et testée en quelque sorte par les autres spécialistes du domaine. Et même une fois qu'une publication est faite, on peut tout à fait publier un autre article pour montrer les insuffisances ou le caractère à réviser de certaines publications. Et c'est vraiment dans cette capacité à réviser ces propositions à la lumière de l'expérience qu'on peut défendre une fiabilité plus grande et une adéquation plus grande au réel du discours scientifique par rapport à d'autres discours qui sont plus figés et dogmatiques.
Et alors, qui peut le faire? Ce sont uniquement des chercheurs, chercheuses. Qui a le droit de le faire, de publier ces articles?
On en revient à une question de démarcation, en fait. Enfin, pour moi, moi, je m'inspire beaucoup des travaux de Guérine et dont une approche, je veux dire, il y en a d'autres qui sont valides, mais une approche de tout un tas de questions qui concernent la science se fait via des questions de démarcation. Où est-ce qu'on établit les frontières entre ce qui relève de la science, ce qui n'en relève pas, entre qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler? Et en fait, c'est des questions... Je pense que c'est le... Je suis l'approche de Bourdieu sur le champ scientifique. Il a une espèce d'approche qui va un peu à double sens. D'une certaine façon, il dit le champ scientifique, c'est comme tous les autres champs. Ma théorie des champs s'applique au champ scientifique. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de spécificité scientifique, si ce n'est que, effectivement, comme vous dites, les scientifiques sont leur premier client. Et donc on fonctionne en interne. Et c'est ça qui, d'une certaine façon, garantit. Il finit par rejoindre un petit peu par la bande des approches beaucoup plus fonctionnalistes qui s'intéressent en sociologie à quelles sont les fonctions de la science et comment est-ce que une institution parvient à mettre en place ses fonctions. Mais en fait, là où moi je prends un petit peu de distance par rapport à ça et où je pense qu'on a intérêt à regarder les choses comme un processus, c'est d'accord, mais ça c'est aussi d'une certaine façon si on pense que l'institution, elle est figée, elle est acquise, que l'autonomie du champ scientifique est acquise. Et en fait, l'autonomie du champ scientifique, elle est négociée en permanence. Elle est négociée historiquement, elle est négociée, et elle se négocie lors de tout un tas d'épisodes au cours desquels sont déterminés qui a le droit de se réclamer de la science, qui n'a pas le droit de s'en réclamer.
La dénomination science, est-ce qu'elle a un sens ici au niveau de la méthode de recherche? Est-ce que c'est une méthode de recherche similaire qui permet de produire des connaissances et plusieurs formes de vérité scientifique donc, qui sont mouvantes?
Je dirais que d'une certaine façon, on pourrait, enfin, entre guillemets, on pourrait tout à fait avoir un monde où ce soit des choses qui soient beaucoup plus séparées que c'est aujourd'hui. En fait, ce qui garantit le fait qu'il y ait des méthodes communes, qu'il y ait des normes communes, c'est que on fasse partie d'institutions. Justement, on fait partie ensemble de la NSF, on fait partie ensemble du CNRS, et donc du coup, toute une partie des normes d'évaluation, toute une partie des processus de formation, toute une partie des façons dont s'organisent les institutions et s'organisent les activités au sein de différentes disciplines sont un petit peu alignées.
Peut-être que je peux ajouter, revenir peut-être à l'enjeu de cette question d'une différence entre les sciences de la nature et les sciences sociales, puis surtout, il y a une hypothèse en arrière-plan qui serait une certaine forme d'unité des sciences de la nature et une certaine forme d'unité des sciences sociales. Alors si vous regardez ce que fait par exemple un physicien qui développe la gravitation quantique en lacets, ce qu'il fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que fait un géophysicien qui essaie de savoir quelle est la température au cœur de la Terre. Donc, et pareil, à l'intérieur des sciences sociales, entre des démarches en économie extrêmement mathématisées, extrêmement modélisées, puis d'autres démarches en sociologie de nature complètement différente, il n'y a pas d'unité non plus. Donc si vous entrez dans ces questions par l'angle des méthodes, en fait, la frontière, elle ne va pas tellement être selon les objets étudiés, mais plutôt selon peut-être les méthodes, la distance à l'expérience, le caractère très théorique, très mathématisé. Donc, il y a plein de façons de rentrer et pour ne plus avoir à se poser cette question. Vous pouvez aussi la poser sous l'angle des attentes en matière, par exemple, d'objectivité ou d'impartialité. Et là, les frontières, elles ne vont pas non plus passer sciences de la nature versus sciences sociales. On peut avoir des attentes... quand on modélise un phénomène social qui est de même nature en matière d'impartialité d'objectif que les attentes qu'on a quand on modélise je ne sais quel phénomène physique ou ce qui se passe à je ne sais où dans l'univers. Donc la question sciences sociales, sciences de la nature, elle est avant tout effectivement institutionnelle. Mais si vous regardez ce qui se fait dans les laboratoires, les frontières qui permettent de peut-être distinguer certains régimes de production de connaissances, elles ne passent pas forcément par les mêmes régimes, les mêmes frontières institutionnelles.
Vous venez d'écouter War de Edwin Starr, un choix musical de notre invité Paul Guy Escuré.
Vous êtes dans Fréquence Recherche sur Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, nous explorons la notion de vérité en recherche. Une question cependant avant de poursuivre notre réflexion. Paul, pourquoi avoir choisi cette musique ?
Alors, déjà parce que je l'aime beaucoup. J'ai quelque chose qui avait attiré mon attention quand j'ai commencé à travailler sur les controverses vaccinales, sur les questions de vaccins, et puis même en général en sociologie des sciences, c'est le fait qu'il y a un moment où on a commencé à parler de vaccine wars. C'est quelque chose qui était présent dans les médias, mais par exemple Science, le magazine Science, a fait une couverture sur les vaccine wars. Et par ailleurs, on a parlé à un certain moment lors de confrontations finalement entre des représentations des sciences sociales, dans des confrontations entre des représentants des sciences sociales et des représentations de sciences plus, encore une fois, naturelles, on a parlé de Science Wars aussi. Et moi, j'ai un des trucs que je trouve extrêmement intéressant, c'est de poser la question que pose cette chanson. Mais cette chanson offre une réponse. Elle dit « What is it good for ? Nothing ». Moi, je pense que la sociologie des sciences, elle peut s'intéresser à ces objets-là et se poser la question « Mais what is it good for ? Pourquoi les Science Wars ? Pourquoi des gens s'impliquent là-dedans ? Qu'est-ce qu'ils en tirent ? Qu'est-ce qu'il y a à en tirer de tout ça ?
Et nous y reviendrons d'ailleurs largement avec Pauline. Mais avant tout, je voudrais conclure et introduire cette seconde partie, en revenant sur la notion d'objectivité que vous avez abordée en fin de première partie. Qu'est-ce que vous entendez par objectivité ?
Alors, si vous demandez à un philosophe des sciences, il va pouvoir vous donner tout un tas de réponses. Oui. Mais en fait, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de relier la notion d'objectivité à la notion d'impartialité. C'est-à-dire, c'est l'idée que quand vous privilégiez une hypothèse ou un scénario en science, eh bien, votre choix n'est pas influencé par des valeurs qu'on appelle des valeurs non épistémiques, c'est-à-dire par vos préférences, qu'elles soient politiques, esthétiques, culturelles, etc. Et donc vous allez essayer d'être impartial, ce qui est bien différent de la neutralité. La neutralité, c'est la question d'avoir un impact ou pas sur quelque chose. Juste pour éclairer ce contraste, par exemple, vous attendez d'un juge qu'il soit impartial, C'est-à-dire que vous ne voulez pas que la décision d'un juge soit influencée par le fait qu'il connaisse telle ou telle personne ou qu'il préfère telle ou telle chose. Vous ne voulez pas qu'il soit influencé par ses préférences individuelles. Pour autant, la décision d'un juge, même si elle est impartiale, elle n'est pas neutre, elle va affecter les gens. Donc là, ce contraste entre impartialité et neutralité, il se déploie aussi d'une façon assez similaire dans le registre scientifique.
Donc les chercheurs et les chercheuses se doivent d'être neutres.
Alors neutre non, mais impartial oui.
D'accord.
Hein, il faut être. Alors c'est vraiment là pour le coup quand même le cœur de la prétention de la science à être suivi, à avoir une certaine autorité dans nos sociétés, c'est que les résultats qui sortent d'une enquête scientifique s'efforcent d'être des résultats ayant un certain degré d'impartialité. Alors, on ne vit pas dans un monde parfait. Hein. C'est-à-dire que oui, il y a des biais en science, les historiens des sciences le documentent très bien. Oui, quand on rentre dans un laboratoire, on ne devient pas complètement... on ne laisse pas derrière soi l'ensemble de ses préférences, bien sûr. Néanmoins, et ça caractérise le champ scientifique, il y a des mécanismes sociaux, notamment le contrôle par les pairs, qui permettent de tenir sous contrôle, en quelque sorte, le fait qu'on est des êtres humains et qu'on a des préférences, on a des intérêts. Et donc, c'est la prétention de la science à l'objectivité, aux sciences d'impartialité, elle vient de cette capacité à être réceptif à la critique de l'autre, à la lumière du tribunal de l'expérience, pour revenir à cette notion. Et le processus est imparfait. Néanmoins, on a de bonnes raisons de penser qu'il marche mieux quand même que d'autres moyens qu'on a pour dire des choses sur le monde. C'est toujours pareil, une approche comparative. Est-ce que ça marche mieux? Est-ce qu'on a de meilleures raisons de suivre ça?
Et est-ce qu'on pourrait dire aussi que ce devoir d'impartialité, il implique la notion de doute permanent du chercheur et du chercheuse que beaucoup se figurent?
Exactement, ce qui est vraiment, et c'est pas toujours facile, hein, c'est cette réceptivité à la critique. Donc ça, c'est un principe fondamental du fonctionnement des communautés scientifiques. On y va plus ou moins à reculons. C'est pas comme si vous me dites le contraire de ce que j'ai dit depuis 20 ans et hop, ça y est, je change. Hein, donc c'est pas si simple. Mais en tout cas, il y a une acceptation de principe que il faut être capable de réviser ses jugements et ses propositions, il faut être réceptif à la critique. Et ça, pour en revenir tout à l'heure à ce qu'on disait, qui peut participer au processus de production des connaissances, on pourrait dire aussi que la ligne de partage, elle peut aussi passer par là. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être un scientifique professionnel. Par exemple, aujourd'hui, on fait beaucoup de ce qu'on appelle les sciences participatives. Mais quand un non-professionnel entre dans ce jeu de production de connaissances, il faut aussi avoir être prêt à réviser ses jugements, être réceptif à la critique. Parce que si vous enlevez ça, eh bien vous enlevez le cœur de la prétention de la science à l'impartialité, à l'objectivité.
Et est-ce que si on enlève ça, c'est ce qu'on entend par le complotisme ou...
Non, je dirais plutôt, si on doit contraster déisme, ce serait plutôt le dogmatisme. C'est-à-dire que là, par définition, le dogmatisme, c'est que vous n'êtes pas... il n'est pas attendu que vous révisiez vos positions et vos jugements. Et donc, vraiment, le contraste, il serait avec des positions dogmatiques.
Je ne pense pas vous contredire en disant que, pour moi, ça rentre dans les endroits où on peut avoir, en tout cas si on regarde l'histoire des sciences, des formes de normes ambivalentes. Le doute, effectivement, c'est quelque chose qui est valorisé, et c'est une attitude qui est valorisée dans notre rapport à la connaissance, dans le monde de la recherche. Mais en fait, si on regarde, il y a aussi des moments, et encore une fois, c'est une question d'interlocuteur, c'est une question d'arène, où on valorise la force de conviction, la capacité à essayer de mener une idée jusqu'au bout, y compris quand elle n'est pas reconnue suffisamment tôt, elle n'est pas reconnue. Je pense que si on regarde l'histoire, par exemple, de Pasteur, où il y a plein de gens qui vont l'exemplarifier comme un moment intéressant dans l'histoire des sciences, notamment parce qu'il y a certains moments où, malgré des retours négatifs, malgré des épreuves, il va essayer de maintenir une ligne directrice. Et donc on rentre dans un moment où, en fait, d'une certaine façon, et c'est quelque chose, la sociologie des professions, la sociologie du travail, montre que une partie du temps, la socialisation professionnelle, c'est le cas pour les médecins par exemple, ça consiste à intérioriser des normes qui ont une dimension contradictoire, mais justement tout le processus, c'est de réussir à les faire tenir ensemble. En fait, dans la socialisation scientifique, il y a de ça. Il y a le fait de réussir à faire tenir ensemble, le fait de valoriser le doute et le fait de valoriser le fait d'avoir quand même une force de conviction sur certaines choses.
être réceptif à la critique, c'est pas lâcher tout de suite. Hein. C'est-à-dire que, mais, et puis c'est souvent aussi rétrospectivement qu'on peut dire, bah là, il aurait fallu lâcher plus tôt, parce que, et donc rétrospectivement, c'est facile ça. De le dire, mais quand on est engagé dans l'enquête scientifique, c'est bien difficile d'avoir une vision claire de moment où un argument va l'emporter sur un autre. C'est tout le jeu de la recherche. Hein. Et néanmoins, quand même, il y a ce principe qu'à un moment, il faut lâcher. Mais il n'y a pas de recette, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de recette. On n'apprend pas à nos étudiants. Bon, bah là, vous êtes réceptif à la critique, mais là, vous lâchez. Non, bien sûr. Mais le principe reste quand même, même si sa mise en application ne relève pas d'une règle. Ça, c'est sûr.
Pour avancer dans cette seconde partie, j'accueille Pauline Beaumont avec un extrait sonore. Bonjour, Pauline.
Bonjour, Naama. On va maintenant parler d'un nouveau type de doute. Et pour explorer ces questions in concreto, nous allons retourner en août 2021, en plein cœur des fameuses Vaccine Wars.
Ceci n'est pas un vaccin, c'est une injection expérimentale, illégale, qui fait des morts. 22 533 morts, 2 347 791 effets secondaires graves.
Mais alors, ils sortent d'où ces chiffres-là ?
Réaction 19.
Ah, alors, Réaction 19, alors, ça c'est un site assez intéressant, je vous conseille. Alors allez-y petit à petit, peut-être sur le site, mouillez-vous la nuque quand même, un petit peu avant, disons. À mon avis, même Bigard, il les trouve un petit peu touchy. Mais bon, moi je suis neutre, hein. Je suis neutre, donc vous allez vous renseigner, démerdez-vous. Bon, en tout cas, renseignez-vous bien, alors, renseignons-nous, tiens, sur les traitements.
Asselineau ici, monsieur Asselineau, il a été malade, il a été soigné avec quoi ? Il s'est soigné avec l'ivermectine et avec la chloroquine, il l'a avoué.
Mais est-ce qu'on peut croire Asselineau ?
Bon, attendez, il l'a dit sur Internet.
Ah oui, effectivement, oui. J'ai des questions un petit peu cons. Internet, ça c'est fiable, c'est un outil fiable Internet, hein. C'est vrai que je vous conseille.
Et donc nous venons d'entendre un extrait de la chronique de Guillaume Meurice du 30 août 2021 sur l'émission regrettée de France Inter par Jupiter. Donc à ce moment, nous en sommes à la quatrième vague de coronavirus en France. Le variant Delta circule et les citoyens doivent présenter un pass sanitaire attestant leur vaccination pour fréquenter la plupart des lieux publics. On s'en souvient, la controverse bat alors son plein et on commente partout dans les médias et jusque dans nos cercles intimes les propos à la fois des anti-vaccins et les réponses de la communauté scientifique. Donc je vais vous inviter maintenant à replonger dans une période qui semble à la fois très ancienne et très récente, où nous avons tous vu s'exacerber les tensions autour de la question même de vérité scientifique et de vérité alternative. Alors avant de revenir précisément sur cet extrait, Paul Guy-Escuré, pourriez-vous s'il vous plaît nous rappeler en quelques mots les origines du mouvement anti-vaccin en France et nous parler peut-être en quelques mots toujours de son essor au moment de la pandémie à partir de mars 2020 ?
Alors, le mouvement anti-vaccin en France, j'ai du mal à parler de mouvement anti-vaccin pour une bonne et simple raison, c'est que d'une certaine façon, il y a un mouvement. L'idée de mouvement anti-vaccin, elle induit un peu l'idée d'une sorte de continuité, l'idée d'une filiation, que ces acteurs, ils partagent tous des idées communes ou même éventuellement des combats communs, et que ces combats, ils ont continué au cours du temps. En fait, on a des oppositions à la vaccination. Ce qui est intéressant, et là je reviens à Edwin Starr, What is it good for ? C'est pourquoi est-ce que des gens s'opposent à la vaccination de Pasteur ? Et en fait, quand on se replonge dans cette époque-là, une des choses qu'on a tendance à faire de façon un peu rapide, c'est à prendre les images les plus caricaturales des choses qui, des dessins qui disait Vaxeur est en train d'essayer de nous transformer en vaches, et de dire voilà, bon, en fait, du coup, c'était des gens, ils étaient complètement fous d'une certaine façon, c'est l'irrationalité des populations, etc. Bon, quand on fait ça, déjà, une partie du temps, on nommait d'autres images qui représentent Pasteur en sein, avec des ailes, avec une espèce de grande seringue, et qui sont pas des images qui, d'une certaine façon, appellent plus à notre rationalité. C'est des images qui appellent aussi à nos émotions, qui appellent à une iconographie religieuse, etc. Mais si on regarde vraiment pourquoi, alors il y a différents livres qui se sont intéressés aux oppositions à la vaccination. Si on prend Pasteur, c'est un moment où l'expérimentation animale, elle augmente une partie des gens qui s'opposent à lui, c'est la ligue anti-vivisection. Et en fait, c'est un moment où dans l'histoire de la biologie, des sciences de la santé, il y a une explosion de l'expérimentation animale. Une partie des problèmes qu'il a Pasteur, c'est des problèmes de voisinage, parce qu'il y a des animaux qui sont abattus, qui font ce que les animaux font une partie du temps, c'est crier. Et donc, bah, réduire ces oppositions à un anti-vaccinalisme, certes, une partie des gens ont pu ensuite partir sur de l'argumentaire scientifique, partir d'une lutte contre la vivisection, partir d'une lutte pour le bien-être animal, et ensuite aller vers des arguments qui sont plus dans le champ scientifique. Mais d'où est-ce qu'ils partent? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? D'autres acteurs, Pasteur, ils s'opposent à des acteurs qui sont, ils s'opposent à des gens de l'Académie de médecine et de santé. Pourquoi est-ce que l'Académie des sciences et l'Académie de médecine en a autant après Pasteur? Pasteur, au départ, c'est un ami de Napoléon III. Enfin, c'est quelqu'un qui est proche de Napoléon III. Quand on passe à la République, il y en a plein qui l'accusent d'opportunisme politique. Il a très rapidement réajusté sa position, il a réajusté ses alliances, et il y en a plein qui l'ont accusé d'être un opportuniste. Il y en a d'autres qui avaient des objections scientifiques à lui faire. Du coup, si on prend de cette base-là et ensuite on revient jusqu'au Covid, en fait, on va rater aussi plein d'étapes. Ces gens n'ont pas des relations de filiation, mais aussi, en fait, finalement, l'explosion du fait de parler des anti-vaccins. Si on prend le moment du Covid, on oublie qu'en réalité, entre 2010 et entre le H1N1 et le Covid, on a une montée de la mise à l'agenda des questions d'antivaccinalisme par des acteurs politiques, par des acteurs médiatiques, et qu'en fait, si on regarde les occurrences, par exemple, du mot anti-vaccin dans la presse à cette période-là, en fait, bien avant le Covid, on a une espèce de courbe qui monte, qui monte, qui monte, on en parle de plus en plus.
Ou peut-être juste, mais dans la même veine, sous un autre angle, c'est vrai que parfois, on réduit trop une position à ce que je crois l'énoncé X, alors qu'évidemment, ça dépend de qui dit l'énoncé X, et surtout, est-ce que cet énoncé il va venir perturber vos systèmes de valeurs et votre mode de vie. Donc, par exemple, si vous regardez le degré de confiance envers la science, si vous faites des distinctions selon les domaines scientifiques, il y a des différences significatives entre la confiance que les citoyens peuvent avoir sur des gens qui travaillent sur les OGM ou dans les et puis la confiance qu'ils peuvent avoir pour, par exemple, en cosmologie. Pourquoi ? Parce que quand un cosmologiste dit quelque chose, ça ne va pas tellement perturber votre système de valeurs ou votre vie quotidienne. Et donc, s'il se trompe, ce n'est pas très grave. Vous lui faites confiance et s'il se trompe, ce n'est pas grave. Ça coûte un peu cher, mais ce n'est pas grave. Par contre, quelqu'un qui travaille sur les OGM, sur les vaccins, etc., ça impacte votre vie quotidienne, votre système de valeurs. Et donc, ce n'est pas seulement que vous ne croyez ou pas à l'énoncé X de ces personnes-là. Ça vous impacte. Et donc ça, il ne faut pas oublier de remettre dans ce contexte-là. Par exemple, il y avait une étude intéressante sur les platistes. Hein, et puis, quand vous creusez un peu, l'étude montrait que ce n'était pas la question de... Il n'y avait pas un engagement si fort de croire que la Terre est plate, mais c'est avant tout appartenir à une communauté qui était le facteur le plus important. Et pareil aussi, beaucoup de gens vous diront qu'est-ce que ça veut dire de croire ou de ne pas croire que X, est-ce que je serais prêt à vraiment mettre mon argent là-dessus? Est-ce que je serais prêt à engager ma vie là-dessus? C'est juste que ça ne me plaît pas trop, alors je dis que ça me plaît. Donc là aussi, il faut distinguer ce que ça veut dire de ne pas croire que X. Hein.
Et donc dans l'extrait qu'on a entendu, quand les personnes se réfèrent à Réaction 19, cette association dont Guillaume Meurice dit que même Bigard la trouve un peu touchy, ou à François Asselineau, comment ça se fait qu'il y a des communautés alternatives qui se forment autour de ces figures-là? Quels sont les systèmes de valeurs qui font, parce que ça va se matérialiser là-dessus, sur un rejet de l'institution et de la vaccination, pour préférer ces discours et ce qu'on a appelé les vérités alternatives?
Alors, bon, ça a fini par devenir quelque chose d'un peu choquant pour moi, toutes les façons dont, dans certaines de ces émissions, on a un espèce de mépris assez direct pour des catégories qui restent finalement très vagues. Qu'est-ce que c'est les anti-vaccins? Et surtout, qu'est-ce que c'est les anti-vaccins pendant la période Covid? Est-ce que c'est les gens qui s'opposent au vaccin Covid ou est-ce que c'est les gens qui s'opposent à toute vaccination? Et en même temps, pour avoir fait des analyses sur les sites web critiques et avoir fait du codage qualitatif d'un ensemble de sites web critiques dont je ne citerai pas de nom pour ne pas leur faire de pub, mais il y en a certains politiques qui étaient particulièrement durs à coder, c'était un peu une épreuve. Je comprends, il y a une dimension épreuve une fois de temps en temps à la confrontation à ce genre de contenu. Par contre, bah, en fait, si vous regardez, genre, il donne une partie de la réponse. Asselineau, il ne s'est pas construit comme acteur des controverses à partir de la vaccination. C'est un acteur qui est déjà là. C'est quelqu'un qui arrive depuis un terrain politique et qui investit la question de la vaccination. Et en fait, si on regarde à l'extrême droite, mais aussi d'une certaine façon dans les milieux altermondialistes, dans tout un tas de... Mais en fait, l'ensemble de la société, à ce moment-là, se positionne sur les questions de la vaccination, et une partie du temps, depuis des positions qui ne sont pas des positions, qui sont focalisées sur la vaccination. Il y a, par contre, des acteurs qui sont focalisés sur la vaccination, qui ont leur mot à dire, et par exemple, Réinfo-Covid, ce genre de site, se monte comme des structures spécialisées. Bon, en fait, une partie des gens qui s'investissent dedans sont des gens qui ont des investissements politiques éventuellement précédents, etc. Mais il y en a qui se politisent via ce genre de questions. Mais on a d'autres types de structures qui peuvent être spécialisées dans une certaine forme de critique de la vaccination, comme des associations de patients, des associations de gens qui estiment avoir été victimes d'un effet secondaire, des associations. Et toute une partie de ces groupes n'ont pas une critique général de la vaccination. C'est pas des anti-vaccins dans le sens où c'est pas des gens qui critiquent tous les vaccins ou qui critiquent le principe même de la vaccination. Ils ont une critique contextuelle à apporter. Et un des problèmes qu'il y a dans l'usage un peu générique et dans la façon dont, en fait, notamment entre 2010 et entre 2020, on a une mise à l'agenda de la question des anti-vaccins et on utilise de plus en plus ce terme, c'est qu'en fait, il tend à réduire l'ensemble des critiques à cette espèce de catégorie homogène et d'une certaine façon aussi, à limiter le champ de la critique légitime sur ce genre de sujet.
Sans réduire les anti-vaccins, sans en faire une catégorie, ce qu'on voit dans les chiffres quand même, c'est qu'en 2020, selon le baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, la confiance en la science en général baisse de 2 points. Elle tombe à 78%. Ça reste élevé, mais elle était à 80% avant, elle tombe à 78%. Stéphanie Ruffy, vous avez parlé à plusieurs reprises du concept de science-urgence. Et donc, est-ce que la science prise dans l'urgence et dans la tourmente va être moins à même d'établir des vérités fiables ou du moins susceptibles d'être perçues comme fiables par les citoyens ?
Alors c'est vrai qu'en temps de science urgente, c'est-à-dire l'action politique ne peut pas attendre que se forme tranquillement un consensus dans les laboratoires, ce qui se passe, c'est que, et ce qui s'est passé très clairement pendant la pandémie, c'est qu'on ouvre en quelque sorte, on ouvre les arrières-cuisines de la science, c'est-à-dire qu'on voit la science tâtonner, partir dans des mauvaises directions, se contredire les uns les autres, donc on a vraiment ouvert la porte des arrières-cuisines. Et alors là, quel effet ça a sur la confiance? Là, je ne sais pas trop, moi. C'est-à-dire, est-ce que... parce que d'un côté, on vit dans des sociétés qui valorisent la transparence. Hein. On voit, par exemple, dans les restaurants, maintenant, on voit tout ce qui se passe en cuisine. Hein. Souvent, c'est cuistré. Donc, c'est pas seulement dans les restaurants, ça peut paraître anecdotique. Alors, on pourrait dire, OK, là, on voit ce qui se passe dans les arrières-cuisines de la science. Et donc, du coup, on a davantage raison de faire confiance, même s'il y a des tâtonnements, etc. Ou est-ce qu'au contraire, ça a l'effet inverse? Moi, je ne sais pas répondre à cette question. C'est plutôt du côté de la sociologie qu'on essaie d'analyser les effets de cette ouverture sur les arrières-cuisines de la science en train de se faire. J'ai tendance à penser en tout cas dans nos sociétés, étant donné quand même une valorisation qu'on peut remettre en question, mais une valorisation de la transparence, ce qui me paraît plus important, c'est que quand un chercheuse ou une chercheure prend la parole dans l'espace public, que ce soit sur un plateau télé comme expert ou sur les réseaux sociaux, qu'il positionne bien le degré de certitude de ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de survendre la fiabilité de ce qu'on dit en général. C'est assez contre-productif, parce que quand on a révisé ce qu'on a dit, eh bien, si on l'a annoncé en survendant son degré de certitude, c'est pas bon pour la suite. Et on l'a vu, pendant la pandémie.
Est-ce que Paul, en tant que sociologue, voulait ajouter quelque chose ?
Ben, disons, oui, je suis d'accord. Et je pense qu'en fait, on a des moments de grâce je me souviens de Fischer qui, à un moment, dit de façon très, très transparente, oui, ben en fait, là, on n'est pas en mesure de dire ce qui va se passer pour ce vaccin. Je ne sais pas. Oui. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a aussi, c'est plus de la sociologie politique, mais en fait, on a un moment où les voix se multiplient, où on a des comités ad hoc qui sont formés, où le gouvernement nomme différentes personnes, différentes choses, où le gouvernement le président prend des initiatives. Par exemple, le fait de recevoir Raoult à certains moments comme acteur privilégié, de mettre en scène un petit peu cette rencontre entre le président et le professeur Raoult, c'est pas complètement anodin. Ça envoie des messages contradictoires, ça crée de la confusion. Pour ce qui est de la confiance en la science, j'ai un collègue qui travaille en ce moment qui essaye de faire une revue de littérature un peu parce qu'on manque un petit peu de données sur l'évolution de la confiance dans la science. Une des choses qu'il met en avant, c'est le fait, on en revient un petit peu au point de départ, c'est qu'est-ce qu'on appelle la science en fait ? De quoi est-ce qu'on est en train de parler ? Et si on parle de la science un petit peu comme idée générale, la confiance dans la science, elle n'a pas spécialement diminué, elle reste assez forte. Ce qui a diminué en réalité, c'est la confiance dans une partie des acteurs intermédiaires, la confiance dans les technologies, la confiance dans des acteurs qui sont les acteurs industriels, l'industrie technologique, les producteurs de vaccins, les producteurs d'engrais, d'insecticides, etc. Ce qui peut avoir changé, c'est une partie de la confiance dans les politiques scientifiques. Le vaccin et les politiques vaccinales, c'est des choses différentes. Et c'est des choses tellement différentes que toutes les recommandations vaccinales ne sont pas alignées en fonction des pays. Donc voilà, en fait, quand on parle de la confiance dans la science et quand on parle de la confiance des gens dans la science, il y a cette distinction à faire. Et un des points qui est important de ce point de vue-là, c'est qu'en fait, moi, je pense qu'il y a plein de moments où, juste à travers la construction de l'antivaccinalisme comme un stigmate, comme une espèce de figure repoussoir, alors même que, d'une certaine façon, comme les platistes, les gens qui ont vraiment les discours les plus radicaux en mode « les vaccins vont nous empoisonner », c'est une extrême minorité. La construction de cette figure comme une figure repoussoire stigmate, elle se fait aussi comme une construction de la figure de l'anti-science. C'est des gens qui ont un problème avec la raison, c'est des gens qui ont un problème avec le progrès, c'est des gens qui ont un problème avec l'objectivité. On fait une liste un petit peu et en fait, ces gens, enfin, une partie du temps, ces gens-là ne sont pas dans une contestation de la science. Ils essayent de se réapproprier des ressources scientifiques. Mais la science est devenue une valeur tellement fondamentale, tellement incontournable, tellement cardinale, qu'ils sont pas dans une... ils essayent pas de faire un bras de fer avec la science. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de se l'approprier, ce qui est une opération qui est très différente.
Merci beaucoup. Avant de continuer notre discussion sur la place des vérités scientifiques en démocratie, nous allons faire une seconde pause musicale. A tout de suite sur Radio Campus Paris 93.9.
Minna falla, no minna falla, dem a run, no minna falla, dem a run far away, run. No fear of the day, we come with immortality. I see them running me, no care about it. I am creating a new melody. I live on the most high. I live on the field. We just stop staring for a new lyrics. The Armageddon is this tiny song.
Vous venez d'écouter Smoke and Fly de Alpha Steppa, un choix musical de notre productrice Naama Drahi.
Vous êtes toujours dans Fréquence Recherche sur Radio Campus Paris.
Et nous sommes de retour dans Fréquence Recherche, toujours avec Stéphanie Ruffy et Paul Guy Escuré, pour parler des liens entre recherche et vérité. Mais avant de revenir sur le sujet qui nous intéresse, la même question que tout à l'heure, et cette fois pour toi, Naama. Pourquoi ce choix de musique ?
Bah, la première réponse serait la même que celle de Paul, c'est que j'adore ce morceau musicalement. Et c'est un morceau que j'ai beaucoup écouté récemment parce que Je fais des longues sessions de microscopie pour observer mes cellules. Et je ne sais pas pourquoi, on est dans le noir et c'est des cellules fluorescentes. Donc ça, parfois, on est un peu, on a l'esprit un peu altéré, je dirais. Et j'avais l'impression, au bout d'un moment, que même mes cellules pouvaient entendre ce morceau que j'écoutais en boucle. Récemment, voilà. Un peu d'irrationalité dans la démarche objective de la recherche.
On va continuer à parler d'irrationalité. Par ailleurs, en démocratie, l'opinion publique a par définition voix au chapitre. Par le vote, chacun peut influer sur le politique en fonction de ce qu'il croit bon, de ce qu'il croit vrai, de ce qu'il croit juste. Pourtant, nous ne sommes pas neutres, nous ne sommes même pas impartiaux. Et il existe des vérités et des justifications qui échappent à la sphère du scientifique et qui échappent même au rationnel. Pour autant, est-ce que la vérité scientifique doit être vue comme une opinion ou comme une vérité individuelle parmi d'autres ? Nous croyons que non, et ce n'est pas non plus la somme de vérités individuelles. La vérité scientifique est un construit collectif qui résulte d'un appareil institutionnel et sociétal, un ensemble de contraintes, d'une méthodologie dont on a déjà parlé en première partie. Au cœur de cette méthodologie, il y a aussi une notion clé que nous n'avons pas encore abordée, qui est celle de l'intégrité des chercheurs. Est-ce que cette intégrité est nécessaire pour que la science éclaire les citoyens et pour que les énoncés scientifiques s'intègrent dans notre démocratie ? C'est de cela que nous allons discuter maintenant. Et en première question, Stéphanie Ruffy, c'est quoi l'intégrité scientifique ?
L'intégrité scientifique, ça renvoie à des bonnes pratiques. Pour mener une enquête scientifique, et ces bonnes pratiques, c'est ce qui garantit la fiabilité du résultat. Et donc, l'intégrité scientifique, c'est une condition même d'existence de la science. C'est-à-dire qu'une science sans intégrité, pas de science, ça s'arrête. Hein. Si vous faites, par exemple, fabriquez des données au lieu de faire une expérience, eh bien, ce que vous produisez cesse d'être de la science. Donc, sans intégrité, pas de science, tout simplement.
Et de 2021 à 2025, vous avez donc dirigé l'Office français de l'intégrité scientifique. Et quel est le rôle de cette institution ?
C'est une institution qui a une mission, alors très générale dans son énoncé, qui est de promouvoir les politiques d'intégrité scientifique en France. Plus concrètement, on avait des missions d'articulation entre, par exemple, une partie législative, ce que fait le législateur, ce que font les chefs d'établissement, ce que font les gens sur le terrain. Par exemple, en France, une avancée législative a été l'obligation faite pour tous les établissements, le CNRS, les universités, les organismes de recherche comme le CNRS, de nommer de ce qu'on appelle des référents à l'intégrité scientifique. Et donc l'Office a, par exemple, des missions d'accompagnement des référents à l'intégrité scientifique sur le terrain.
Et Paul-Guy Escuré, dans le champ de la sociologie, comment vous pratiquez au quotidien cette démarche intègre ? Est-ce que vous diriez que l'intégrité scientifique, par exemple, c'est la même chose que la neutralité axiologique, ou est-ce que c'est autre chose ?
L'intégrité scientifique, comment est-ce qu'elle s'incarne ? Alors déjà, c'est encore une fois aussi un objet, genre comment est-ce qu'on maintient cette intégrité scientifique et comment est-ce qu'elle se négocie. Ça reste un objet que on étudie. Comment est-ce qu'on la pratique ? Moi, là, pour donner l'exemple au sein de l'Institut Pasteur, nos protocoles de recherche, on les soumet à un comité éthique qui garantit d'une certaine façon, avec lesquels on dresse une forme de contrat qui garantit qu'on va bien traiter les gens avec qui on va faire des entretiens, qui va garantir qu'on va bien conserver les données qui sont issues de notre recherche, qu'on va les maintenir dans des espaces qui sont sécurisés. D'une certaine façon, on ne peut pas faire de mal à des atomes, on peut faire du mal à des gens. Donc notre objet à nous, il peut souffrir. Et on a une responsabilité éthique vis-à-vis de cet objet. Et en fait, à travers toute la négociation avec un comité éthique, on assure aussi, d'une certaine façon, que nos résultats ils soient réplicables, soit vérifiable, tout ça fait partie du contrat.
Peut-être je peux juste ajouter que c'est important de faire un contraste entre éthique et intégrité, parce que les responsabilités éthiques, les normes, elles sont pas de même nature. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire à des animaux ou à des êtres humains en recherche, c'est quelque chose qui renvoie à des systèmes de valeurs qui ne sont pas déterminés seulement par la communauté scientifique. Et d'ailleurs, l'histoire de l'expérimentation animale montre bien que les normes éthiques ont évolué au cours du temps. L'intégrité scientifique, c'est un peu différent, parce que c'est aussi, c'est plus découplé de la fiabilité. Vous pouvez maltraiter un animal, mais votre résultat, il peut être très fiable. Alors que la question de l'intégrité, ce sont des normes qui sont plus internes aux communautés scientifiques et qui garantissent la fiabilité du résultat. Et pour le coup, elles sont vraiment générées par les communautés scientifiques elles-mêmes. Si on prend par exemple des normes en matière de statistiques ou de tests statistiques, c'est quelque chose qui va avant tout être déterminé par les communautés scientifiques elles-mêmes, contrairement aux normes éthiques qui, à juste titre, d'autres composantes de la société ont leur mot à dire sur la façon de procéder, est-ce que c'est acceptable ou pas.
Ce qui est intéressant, c'est que du coup, moi, dans mon expérience, en fait, le comité éthique remplit cette espèce de double guichet. Parce que la façon dont on traite nos données, il y a une question de responsabilité vis-à-vis des gens, et puis il y a une question de responsabilité vis-à-vis de la façon dont on procède, qu'on a bien fait de la façon dont on a procédé. Quoi.
Ouais.
Avec cette définition de l'intégrité, on peut donc dire que l'intégrité est la condition pour établir une vérité scientifique au sein de la communauté scientifique.
Oui, c'est-à-dire que ça renvoie encore une fois aux bonnes pratiques qui permettent de prétendre à la fiabilité des résultats. Fiabilité. Et peut-être la façon la plus simple, c'est de parler des manquements à l'intégrité scientifique. Quand on fait des choses qui ne sont pas conformes aux normes. Donc, par exemple, si, encore une fois, vous fabriquez des données, bon là, évidemment, c'est un manquement manifeste à l'intégrité scientifique. Il y a des manquements qui sont aussi importants parce qu'ils remettent en question les processus sociaux de fonctionnement des comités scientifiques. Par exemple, les manquements les plus répandus dans les comités scientifiques, c'est ce qu'on appelle des problèmes d'autorat. C'est-à-dire que vous ne donnez pas à tous les chercheurs qui ont participé à la recherche la reconnaissance de leur contribution. Alors, en quoi ça impacte peut-être pas directement la fiabilité, mais ça l'impacte indirectement. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement des communautés repose sur une confiance entre pairs, sur la reconnaissance. Donc, si vous perturbez ce fonctionnement des communautés scientifiques, in fine, vous perturbez les relations de confiance et donc aussi, secondairement ou indirectement, la fiabilité.
En principe, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, une des conditions pour que la communauté scientifique fonctionne bien et que notre profession puisse s'exercer dans les meilleures conditions, il faut qu'il y ait cette espèce de capacité d'autorégulation, donc en fait d'autonomie. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que les règles elles soient fixées par les scientifiques pour les scientifiques. Et une des questions que ça pose, c'est en fait est-ce que cette autonomie elle est acquise par un processus historique qui nous a permis d'en arriver là où on est, ou est-ce que, comme je l'ai un peu déjà spoilé au début, est-ce qu'elle est en permanence renégociée ? Et donc, pour moi, une des questions qui est intéressante aujourd'hui, c'est est-ce que ces conditions d'autonomie, elles ont évolué ? Est-ce qu'il y a d'autres acteurs que les chercheurs qui sont amenés à influencer, peser sur la façon dont on mène nos recherches, sur la façon dont se mène la discussion politique ? C'est pas une question, j'ai pas une réponse à vous fournir tout de suite, mais d'une certaine façon, on a plein de moments où cette question, elle émerge. Qu'est-ce qui se passe quand un ministre intervient pour faire annuler un colloque au Collège de France ? C'est une question, enfin, en tout cas, genre, je pense que c'est une question qui amène, qui pose question sur l'autonomie de la communauté scientifique. D'une communauté scientifique, on pourrait dire, ou des communautés scientifiques. Mais il y a plein d'autres questions. Qu'est-ce qui se passe quand on a des dispositifs incitatifs à partir vers des start-up à essayer de valoriser les technologies qui émanent de la recherche ? On produit des rapprochements à certains moments avec des acteurs industriels. Ces acteurs industriels, ils peuvent exercer des pressions. Tout l'intérêt de l'intégrité scientifique, c'est d'essayer de limiter ces pressions. Mais ces pressions, néanmoins, elles existent et c'est un rapport de force permanent entre une somme d'acteurs. Et ces conditions d'autonomie, c'est aussi des conditions de ressources. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que la recherche elle soit financée pour ne pas être dans une situation de vulnérabilité où elle soit du mauvais côté en termes de rapport de force.
Alors, il y a eu, c'était très riche, donc peut-être. La question de l'autonomie, oui, il faut vraiment la déployer sur différents registres. Parce que il y a la question de l'autonomie dans la conduite de l'enquête scientifique. Et là, pour le coup, on arrêterait de faire de la science si on ouvrait la porte à des influences. On a parlé l'autre fois des préférences individuelles des chercheurs, mais évidemment, toute autre influence de valeur qui viendrait influer directement le résultat d'une enquête scientifique. Là, je pense que c'est complètement consensuel de dire que ce n'est pas souhaitable et il ne faut rien lâcher sur cette forme d'indépendance. Après, la science ne se fait pas sur la planète Mars, donc elle est évidemment dépendante des autres composantes de la société. Et comment pourrait-il en être autrement, surtout dans une démocratie? On ne peut que s'en réjouir, que ce ne soit pas une autonomie totale. Donc, par exemple, très concrètement, un registre où on peut en discuter, c'est sur la façon dont on fixe les priorités de la recherche. Et donc, est-ce qu'il est légitime ou pas dans une démocratie que d'autres composantes de la société aient leur mot à dire sur les priorités de la recherche, ou est-ce que ce sont les chercheurs et les chercheuses eux-mêmes qui doivent les fixer? Donc là, on arrive sur le rapport entre science et démocratie. Et donc, là, on vit dans des économies de marché, hein, donc, où il y a des acteurs privés, et les acteurs privés interagissent avec la recherche publique. Toute la question, c'est encore... Donc là, il y a effectivement une autonomie qui est limitée dans le registre des priorités de la recherche, mais qui doit rester totale, l'indépendance, dans le contenu, le résultat des enquêtes scientifiques. Donc il faut vraiment distinguer ces deux niveaux-là. Et on peut revendiquer l'indépendance tout en acceptant que dans une démocratie, il y a une dépendance des priorités de la recherche à ce que veulent d'autres composantes de la société.
Et je crois que ce sera le mot de la fin, parce que c'est une conclusion parfaite pour cet épisode sur les liens entre recherche, vérité, intégrité et comment la recherche s'intègre dans notre société démocratique. Alors évidemment, on a vu beaucoup de sujets, on a dû en laisser beaucoup de côté parce qu'on a été pris par le temps. Mais ça nous a quand même permis de réactualiser cette question des interactions entre recherche et vérité, qui n'est évidemment pas une question nouvelle. Pour autant, les crises que nous traversons ont ceci de positif, qu'elles nous ont permis de remettre la question sur le devant de la scène. La question de la vérité n'est pas, ou moins que jamais, un débat réservé aux scientifiques et aux épistémologues. Bien au contraire, c'est une controverse citoyenne, discutée ici sur les antennes de Radio Campus Paris, mais aussi beaucoup plus largement. Bruno Latour a dit et répété, dès les premiers symptômes en mars 2020, que si on ne profitait pas de cette situation incroyable pour changer, c'était gâcher une crise. Il est encore difficile sûrement d'affirmer avec certitude tout ce que la pandémie a changé pour nous. Mais peut-être que les questions qu'elle a fait émerger permettent de dire que, de ce point de vue-là, la crise n'a pas été gâchée. Alors merci Stéphanie Ruffy et merci Paul Guillet-Scuré d'avoir été avec nous pour continuer à réfléchir à cette question fondamentale pour les chercheurs et pour les citoyens. Merci à Naa Madrahi pour la préparation et la co-animation de cet épisode, à Célène Forger qui nous accompagne toujours depuis le Danemark et à Eléa Koch pour la technique. On remercie aussi très chaleureusement Radio Campus Paris qui nous héberge, Radio Campus Paris qui est une radio associative d'éducation populaire, d'esprit libre et curieux. On se retrouve dans 2 mois pour le prochain épisode. Et enfin, un immense merci à vous tous d'avoir été à l'écoute. Nous vous souhaitons une excellente soirée.